la Bible contient de nombreuses choses. Et entre autres, la Bible nous rapporte les enseignements de Jésus. Et qui d'entre nous serait en mesure de réciter de mémoire tous les enseignements de Jésus, sans en oublier? Il y en a peut-être, hein, j'espère qu'il y en a, c'est pas mon cas. Parce qu'en fait, voilà, ce serait difficile de pouvoir tout citer de mémoire, parce que la Bible nous rapporte, non pas toutes les paroles de Jésus, mais en tout cas, de nombreuses paroles de Jésus, et toutes celles que Dieu a estimé bon de porter à notre connaissance. Et il faudrait une mémoire exceptionnelle pour les retenir toutes. Eh bien, Jésus a fait une chose pour nous aider à nous souvenir de ce qui est vraiment important. Non pas forcément de tout ce qu'il a dit, mais quelque chose qui est vraiment important, qui nous permet par la suite de pouvoir vérifier si ce que nous faisons ou si ce que nous croyons est en accord avec la volonté de Dieu. Et tout d'abord, Jésus a fait la synthèse de l'ensemble de la volonté de Dieu. Il n'y a que Jésus pour faire ça aussi bien. Tous les commandements de Dieu, et donc tout ce que Dieu attend de nous, peuvent se résumer en deux commandements généraux. Et ça, je pense que vous devez les connaître. Le premier de ces commandements, c'est... Oh, c'est timide. Alors, je suis un peu sourd. Le premier de ces commandements, c'est quoi? Le plus grand de tous les commandements. Oui, voilà. Ah, voilà, par exemple, Matthieu 22, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus dit, c'est le premier commandement et le plus grand. En toute chose, Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Dieu est au-dessus de nous. Il passe avant nous. À Dieu la première place. Mais, Jésus continue, le second commandement toujours dans Matthieu 22, voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer les autres comme nous-mêmes, nous devons veiller à leurs intérêts aussi bien qu'aux nôtres. Nous devons, par exemple, leur pardonner leurs fautes autant que nous-mêmes, nous aimerions qu'ils nous pardonnent les nôtres. C'est-à-dire que nous sommes au même niveau. Premier commandement, Dieu, première place au-dessus. Deuxième commandement, aimez votre prochain comme vous-même. Et Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus nous a aidés ainsi à y voir un peu plus clair dans la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons, disons, pensons, nous devons les remettre à la lumière de ces deux commandements. Jésus veut que l'on retienne ces deux commandements généraux, mais Jésus a également voulu que l'on retienne la mission particulière qu'il a confiée à chacun de nous avant de partir. Et cette mission, on la retrouve tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles à la fin de l'évangile de Matthieu. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a à disposition là-bas. Même, je vous dis même la page, si vous avez cette traduction-là, c'est la page 643. Les paroles que nous allons lire sont les seules paroles de Jésus qui nous sont rapportées dans l'évangile de Matthieu entre la résurrection de Jésus et son ascension. Alors, en lisant les évangiles, nous voyons que Jésus dit bien d'autres choses hein, au cours de cette période de 40 jours qu'il a passé avec ses disciples après être ressuscité. Mais pourtant, le Saint-Esprit a conduit Matthieu à garder sous silence la plupart des paroles de Jésus pour nous en rapporter une seule, celle que le Seigneur veut que nous retenions à coup sûr. Et je vais lire l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et les versets 18 à 20. « Allez donc, Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ces paroles de Jésus nous amènent dans un premier temps à préciser ce qu'est un disciple. C'est quoi un disciple ? Et c'est notre premier point. Et sur les feuilles vertes, justement, j'ai mis les principaux points de ce message. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ? Alors déjà, il faut qu'on soit conscient qu'un disciple de Jésus, ce n'est pas seulement quelqu'un qui croit que Jésus existe. Le diable croit que Jésus existe, cela ne fait pas pour autant de lui un disciple de Jésus. Un disciple, ce n'est pas non plus quelqu'un qui serait très religieux, qui serait seulement cela, qui ferait des tas de choses au nom de Jésus. Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 22 suivant, « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Il ne suffit donc pas de prétendre agir au nom de Jésus pour être véritablement son disciple. Plusieurs choses définissent ce qu'est un véritable disciple et je vous en propose trois. Premièrement, ce qui caractérise un disciple, c'est qu'un disciple a un maître. Et voilà ce qui distingue le maître de son disciple. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. Un disciple a un maître. Jésus n'est pas notre égal, et encore moins en dessous de nous. Un disciple de Jésus reconnaît d'abord que Jésus est son maître, son seigneur. Avoir Jésus pour maître, cela implique qu'en toute chose, nous considérons que tout ce qui vient de Jésus est supérieur et meilleur à ce qui vient de nous. Les pensées de Jésus et les sentiments qu'il habite sont préférables à nos propres pensées et à nos propres sentiments. En cas de conflit entre les deux, c'est Jésus qui a raison. Par exemple, là où notre intelligence et nos sentiments nous disent oh, « Il faut combattre, il faut se venger de nos ennemis. » C'est naturel. Jésus, lui, nous dit, en Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Pas facile. Il continue. « Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça, ce n'est pas naturel. Mais si jamais mes sentiments m'amènent à avoir une rancœur ou des sentiments de vengeance, je dois les comparer à la lumière des sentiments de Jésus et de me dire, je fais fausse route. C'est peut-être naturel, mais ce n'est pas spirituel. C'est Jésus qu'il faut suivre. Être disciple de Jésus, avoir Jésus pour maître, c'est considérer qu'en toute chose, sans exception, c'est Jésus qui a raison. C'est lui qui a raison, et donc, conséquence logique, c'est lui qu'il faut suivre. C'est la deuxième chose qui distingue un disciple de quelqu'un qui serait simplement croyant. Un disciple suit son maître. Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus, c'est vouloir marcher sur ses traces. C'est ça, vouloir le suivre. C'est vouloir être toujours plus proche de lui. Un disciple suit son maître partout où son maître l'emmènera. C'est le maître qui choisit l'itinéraire et c'est à son disciple de le suivre, pas l'inverse. Mais est-ce que parfois, on ne fait pas l'inverse? On fait les choses à notre manière, parce que ça nous semble bien, meilleur. On ne se préoccupe pas de la volonté de Dieu, voire même, on ne tient pas compte de sa volonté. Et puis à un moment, généralement lorsque les choses ne vont pas bien, on s'étonne, on se plaint, et là on dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'es pas à mes côtés? C'est nous qui ne sommes pas à ses côtés. C'est nous qui ne l'avons pas suivi. Et après, on se plaint. Suivre Jésus a un coût. Et ça, on doit en être conscient. Suivre Jésus a un coût. Pour suivre Jésus, je dois renoncer à suivre mon propre chemin. Je dois renoncer à moi-même. C'est logique, puisque le maître de ma vie, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus. Suivre Jésus, c'est en quelque sorte accepter de mourir à nous-mêmes. C'est ça, porter notre croix. Et cela peut nous faire peur. Moi, je m'en souviens une fois avec Cathy, on était à Villefranche, on est arrivé dans la région il n'y a pas longtemps, et en fait on cherchait à voir visiter des traboules. Il faisait nuit, on était avec une amie, puis là, un inconnu arrive, il avait visiblement un peu bu, et puis il nous entend parler, il nous dit, suivez-moi, moi je vais vous montrer. Alors, on l'a suivi quand même, hein, on a bien fait parce qu'il nous a montré des endroits super, il a sonné chez les gens ont ouvert, mais moi je dois dire, j'avais quelques inquiétudes. Si au lieu d'être un homme plus petit et suffisamment éméché pour me dire qu'il n'était pas très bif, j'ai vu en face, là, deux, trois grands gaillards, je pense que j'aurais été plus méfiant. Il est normal qu'on se méfie si on suit quelqu'un. Mais si on considère qui est notre maître, qui est celui que nous devons suivre, celui qui nous demande de nous suivre, alors nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Parce que celui que nous devons suivre, c'est le Dieu Tout-Puissant qui, par amour, est venu jusqu'à nous, nous chercher et nous sauver. Il n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour se venger, il est venu pour nous accorder sa grâce. C'est vrai que de suivre Jésus nous demande de renoncer à un certain nombre de choses, et en particulier de renoncer au péché dont il nous a fait prendre conscience par sa parole et par son esprit. En tant que disciple, Jésus nous demande, pour le suivre, de renoncer à un certain nombre de choses. Et à la place, Jésus nous demande de mettre en pratique d'autres choses, les bonnes choses qu'il nous a enseignées. C'est la troisième caractéristique d'un disciple. Un disciple met en pratique ce que son maître lui a enseigné. Un disciple de Jésus met en pratique ce que Jésus lui a enseigné. Difficile de se prétendre disciple de Jésus si on ne fait pas ce que Jésus nous demande. Alors la parole de Dieu nous rapporte les enseignements de Jésus. Enseignements de Jésus qui nous sont rapportés, des enseignements directement entendus par la bouche de Jésus. Les évangiles disent cela. Mais nous devons également être conscients que bien d'autres enseignements de Jésus nous ont été rapportés, non pas ce coup-ci par la bouche de Jésus, mais par ce qu'a transmis son esprit à ceux qu'il a choisis comme prophètes, apôtres, rédacteurs de livres bibliques. La Bible nous dit que dans son ensemble, elle est parole de Dieu, qu'elle est là pour nous instruire et pour nous faire connaître la parole de Dieu. Être disciple de Jésus, c'est accorder de l'importance à l'ensemble de la parole de Dieu. Un disciple de Jésus cherche à mettre en pratique la parole de Dieu dans sa propre vie. Pas seulement dans la vie des autres, des fois c'est plus facile, dans notre propre vie. Pour résumer ce qu'est un disciple, on pourrait dire que être disciple de Jésus, c'est plus que croire à Jésus, plus que croire que Jésus existe. Être disciple de Jésus, c'est croire en Jésus. C'est croire en ce que Jésus est, en ce que Jésus a dit, en ce que Jésus a fait. C'est lui faire confiance et en toute chose chercher à lui ressembler. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît un disciple. Un disciple ressemble à son maître. Si nous avons vu ce qu'est un disciple de Jésus, notre passage nous indique alors ce que Jésus attend de ses disciples. Et c'est notre deuxième point. Chercher à faire des disciples est un commandement du Seigneur. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. À ses disciples, Jésus a confié une mission, celle de faire d'autres disciples. La mission d'un disciple, c'est de faire d'autres disciples. Et en tant que disciples de Jésus, en tant qu'Église, nous n'avons même pas à nous poser la question, est-ce que nous devrions chercher à faire des disciples ? La question que nous devrions plutôt nous poser, c'est celle-ci, mais comment faire des disciples ? Comment faire pour obéir à la volonté de notre Maître qui nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Si nous voulons préparer le chemin du Seigneur, préparer le chemin par lequel le Seigneur veut agir et se glorifier en transformant des vies, nous devons chercher à faire des disciples. C'est la mission non négociable que le Seigneur nous a confiée. Et bien entendu, cela implique pour nous-mêmes et en premier lieu d'être un disciple de Jésus. Mais comment être et faire des disciples ? C'est notre troisième point. Comment faire des disciples de Jésus ? Alors, n'espérez pas que je vais vous donner pour cela une recette miracle. Les miracles, c'est dommage, oui, c'est vrai. Mais les miracles, c'est Dieu qui s'en charge, pas les recettes. Et il n'y a que Dieu qui, par son esprit, peut toucher le cœur endurci d'une personne afin que cette personne devienne un disciple de Jésus. Quelqu'un qui aime Jésus et qui a renoncé pour cela à lui-même, quelqu'un qui a fait le choix de mettre en pratique la volonté de Dieu dans sa propre vie au fur et à mesure qu'il découvre la volonté de Dieu pour lui. Notre rôle à nous n'est que de préparer le chemin du Seigneur. Et voici le chemin que le Seigneur nous demande de suivre pour cela. Dans notre passage, Jésus nous dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, le baptême est un acte par lequel une personne témoigne publiquement, en présence d'autres frères et sœurs, que Jésus est devenu son Seigneur et son Sauveur. C'est ce que Laurence s'apprête à faire cet après-midi. Mais pour qu'il y ait baptême, il faut déjà que les disciples aient fait deux choses. Pour que des disciples puissent baptiser un nouveau disciple, il faut au préalable qu'ils aient fait deux choses. D'abord, il faut annoncer l'Évangile. Ensuite, il faut accueillir, recevoir ceux qui, dans leur cœur, ont déjà reçu Jésus. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit implique que dans un premier temps, nous devons annoncer l'Évangile. C'est notre mission. Romains 10, 13 nous dit ceci, « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Notre mission de faire des disciples commence déjà par annoncer l'Évangile. Et ça, nous ne savons pas forcément toujours comment le faire. Lors de notre week-end de rentrée, nous avons commencer à regarder une piste. Proposer des parcours alpha serait un moyen par lequel nous pourrions annoncer l'évangile à notre entourage, dire aux gens qui habitent cette région. Et d'ici quelques temps, nous réfléchirons si les parcours alpha sont le moyen par lequel le Seigneur veut que nous préparions son chemin. Il existe toutes sortes de moyens. La question est, qu'allons-nous faire? Pas est-ce que nous devons le faire, mais quel est, avec ce que nous sommes, le meilleur moyen d'annoncer l'Évangile? Avant de baptiser, il faut annoncer l'Évangile. Mais également, pour baptiser ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ceux qui sont devenus disciples de Jésus, nous devons également les accueillir parmi nous. Parce qu'en les baptisant, nous les reconnaissons comme faisant partie du même corps que nous. Nous reconnaissons que le baptisé est devenu un enfant de Dieu à part entière. Il a la même dignité que nous. Il appartient tout comme nous à Jésus. Et donc, nous l'accueillons en tant que frère ou en tant que sœur. Faire des disciples implique que ceux qui sont déjà disciples annoncent l'Évangile, mais aussi qu'ils vont accueillir fraternellement, non pas ceux qu'ils ont choisis, mais tous ceux qui deviendront à leur tour disciples, tous ceux dont Dieu aura touché le cœur. Dans notre passage, Jésus nous dit également que pour faire des disciples, il faut les enseigner. Vous, disciples, enseignez les autres disciples. Nous devons mutuellement nous enseigner à devenir de meilleurs disciples, c'est-à-dire des disciples qui ressemblent de plus en plus à Jésus, qui ressemblent de plus en plus à leur maître. Cela implique qu'en tant que disciples, nous devons être déjà à la recherche de la volonté de Dieu. Comment suivre notre maître si nous ne cherchons pas déjà quelle est sa volonté? Un disciple veut connaître la volonté de son maître. Cela implique également que ce que nous connaissons de la volonté de Dieu, nous ne devons pas le garder simplement pour nous-mêmes. Nous devons le transmettre, le partager et l'enseigner à d'autres. Lisons, méditons, mais aussi partageons la parole de Dieu. Parce qu'être disciple de Jésus passe par connaître Jésus et sa volonté. Et sa volonté, qu'est-ce qu'on en fait? Sa volonté, nous devons la mettre en pratique. C'est ce que nous dit Jésus toujours dans notre passage. Enseignez-leur, pas simplement enseignez-les tout court, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. En tant que disciples, nous ne devons pas seulement connaître la volonté de Jésus. Nous ne devons pas simplement être des spécialistes ou des théoriciens de la parole de Dieu. Ce que nous savons, nous devons le mettre en pratique, nous devons le vivre. Ce que Jésus veut, c'est transformer nos cœurs, nos pensées, nos actions, afin que nous lui ressemblions de plus en plus. Parce que c'est à cela qu'on reconnaît un disciple ressemble à son maître. Nous devons donc mutuellement nous aider à mettre en pratique l'enseignement de Jésus dans nos propres vies. Pourquoi ne pas lire la Bible avec un autre frère ou une sœur, afin ensemble de prier, mais aussi de nous aider mutuellement à mettre en pratique ce que Dieu nous a révélé. D'ici quelques temps, je vous reparlerai de cela. Mais soyons conscients d'une chose, ce n'est pas simplement à l'Église, entre guillemets, de faire d'autres disciples. C'est la mission de chaque disciple de faire d'autres disciples. La question est de savoir comment procéder. La mission de tout disciple, c'est de faire d'autres disciples. Notre mission à tous, c'est de faire des disciples, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église en tant que communauté n'est pas simplement de réunir des personnes sympathiques afin de leur offrir un cadre confortable dans lequel elles vont entendre parler de Dieu et se sentir comme en vacances avec Dieu. « Ah, c'était chouette! J'ai passé un bon moment !» Ceux qui viennent à l'église pour y trouver un cadre confortable et agréable risquent d'être déçus. Pourquoi cela ? Parce que la mission de l'église, notre mission, c'est de faire, avant toute chose, des disciples. L'église est donc un lieu d'enseignement. L'église est aussi un lieu de remise en question personnelle. Et ça, c'est beaucoup plus dérangeant. Si nous venons ici dimanche après dimanche, si nous lisons notre Bible chez nous et que nous ne nous sentons pas remis en question, ça signifie, je pense, deux choses. La première, l'hypothèse impossible à vérifier, ce serait qu'on soit déjà devenu parfait. Je suis tellement parfait que je suis un disciple parfait, je ressemble en tout à Jésus. Ça, c'est impossible. Si on n'est pas remis en question, ça peut être peut-être qu'on n'entend pas cette remise en question, ou bien que nos oreilles et nos cœurs sont bouchés. Mais en tout cas, l'Église est un lieu de remise en question. Parce que c'est le cadre dans lequel le Seigneur, dans sa grâce, a prévu de nous faire grandir à sa ressemblance. L'Église est un lieu de croissance, un endroit où ceux qui sont devenus des disciples de Jésus cherchent à lui ressembler de plus en plus. Comment ? En mettant en pratique les enseignements de leur maître dans leur propre vie. Jésus nous a donné notre ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous a indiqué par quels moyens faire des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Mais voilà, faire des disciples peut nous sembler bien difficile, voire même impossible. Et nous avons, dans une certaine mesure, raison de croire cela. Il nous est, à nous, impossible de faire des disciples. C'est au-delà de nos forces, c'est en dehors de notre pouvoir. Il n'y a que Dieu qui soit capable de toucher les cœurs, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais justement, nous ne sommes pas sans lui. Nous ne sommes pas seuls pour mener à bien la mission que Jésus nous a confiée. Parce que Jésus a dit à ses disciples, juste après, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus n'a pas simplement dit « Je reviendrai ». Il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est uniquement parce que Jésus est avec nous, parce que Jésus est avec ses disciples, que nous pouvons compter sur lui pour toucher les cœurs et faire d'autres disciples. Nous, ses disciples, nous ne pouvons simplement que préparer le chemin du Seigneur. Alors préparons le chemin par lequel Jésus veut toucher des cœurs et faire grandir son Église. Annonçons l'Évangile. Accueillons ceux dont le Seigneur aura touché le cœur, enseignons-les et soyons nous-mêmes à la recherche de la volonté de Dieu et mettons en pratique nous-mêmes ce que nous avons compris de la volonté de Dieu, mais aidons également les autres à le mettre en pratique dans leur vie. Et alors, attendons-nous à voir Jésus agir, à le voir se glorifier par les vies qu'il va transformer et par les disciples qu'il va faire grandir en nombre et en maturité. Amen.